Bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième épisode de Génération IA, le podcast pour décrypter l'actualité IA et apprendre à se former, parce que se former sur l'IA est devenu une des priorités. Notamment, j'ai vu dans ma newsletter IA qu'il y avait plein de patrons aux US qui venaient de signer une lettre ouverte dans laquelle ils demandaient au gouvernement de rendre obligatoire l'apprentissage de l'IA à l'école. Et que ce devait être un cours obligatoire et donc pourquoi? Parce que ceux qui ne maîtriseront pas l'IA risquent de passer derrière et risquent d'être obsolètes en fait dans le monde du travail. Donc il y a plus de 250 CEO US qui ont signé cette lettre, notamment le CEO de Airbnb, le CEO de LinkedIn, le CEO de Zoom. Enfin, là, je regarde le CEO de Palantir. Vraiment que des top CEO. Et donc, ils disent que l'IA peut augmenter de 8% la masse salariale, à condition, bien sûr, que les gens maîtrisent l'IA et que ça va créer 660 milliards de dollars en opportunités aux États-Unis. Donc, c'est très important de se former à l'IA, ça l'est de plus en plus et je vous demande de partager ce podcast parce que ceux qui passent à côté, eh bien, vont être relégués et ça va aller très très vite. En fait, c'est vraiment une exponentielle. Plus le temps va passer et plus ceux qui ont adopté l'IA tôt vont se démarquer des autres. Donc vraiment, ne restez pas derrière. Suivez ce podcast, on va voir tout ça ensemble. Et effectivement, ma newsletter, quand je dis ma newsletter, c'est, vous savez, dans l'épisode 1 ou 2, je crois que c'est l'épisode 2, j'avais raté les tâches dans ChatGPT, du coup, j'ai configuré une tâche qui est de m'envoyer une newsletter des actus IA. Je l'avais configurée toutes les semaines, mais je viens de changer à tous les jours. Comme ça, tous les matins, je peux configurer ma newsletter. Et ce qui est top, c'est que je peux prompter ce que je veux. Donc, j'ai vraiment prompté que je voulais un résumé, mais maximum 3 points, et bien souligner, par exemple, des actualités ou des anecdotes percutantes afin de nourrir mon podcast. Donc, créez-vous votre newsletter, créez-vous, par exemple, si vous travaillez dans la finance et que vous passez une demi-heure le matin à regarder les articles qui sortent par rapport aux news dans le monde de la finance, eh bien, planifiez-vous une tâche que ChatGPT va lancer automatiquement une demi-heure avant que vous vous réveilliez, parce que oui, vous pouvez configurer l'heure. Et vous n'aurez plus qu'à lire ce petit résumé qui sera personnalisé pour vous. Et donc, vous gagnerez déjà pas mal de temps. Donc, dans cette newsletter, je voyais également que l'entreprise JP Morgan, la banque JP Morgan, tire 20% de croissance et 1,5 milliard d'économies grâce à l'IA. Apparemment, ils ont augmenté leurs ventes, etc. parce qu'ils ont un coach IA en interne. Petite actualité comme cela. Mais commençons ce podcast. On va aborder un peu plus profondément le raisonnement des IA génératives. Parce que oui, désormais, les IA génératives raisonnent. Vous l'avez peut-être vu quand vous cherchez sur ChatGPT ou d'autres outils. Désormais, on peut un peu voir le mode de pensée, notamment pour les questions complexes. On peut voir que l'IA se parle à elle-même. Et après, on peut voir la réflexion. Donc là, par exemple, je vois que je lui ai demandé le résumé pour aujourd'hui parce que j'avais mal configuré ma tâche. Et là, il a fait une réflexion qui dure 37 secondes. Et je vois chaque point de sa réflexion. Donc le premier point, c'est par exemple, l'utilisateur me demande le résumé du jour. Le problème, c'est qu'ils ont défini une automatisation pour recevoir le résumé chaque vendredi à midi. Mais aujourd'hui, c'est le 6 mai 2025, soit un mardi. Donc le résumé doit vraiment correspondre à vendredi dernier, le 2 mai 2025. Bref, il se pose plein de questions en fait. Un peu trop, mais après il synthétise tout ça. Ensuite, il y a un deuxième point. Aujourd'hui, 6 mai 2025, je vais effectuer une recherche sur les dernières nouvelles surprenantes concernant l'IA. Je vais planifier une recherche actualisée avec un filtre rétrospectif de 24 heures. je vais déterminer deux ou trois récits intéressants à résumer, etc., etc. Ensuite, il fait sa recherche. Ensuite, il analyse ses recherches. Il en refait une deuxième, etc. Il analyse les sources et il me sort enfin mon petit résumé. Donc, l'IA réfléchit. En tout cas, c'est ce qui est marqué, réflexion durant 37 secondes. Mais on va voir depuis quand et puis comment ça se passe, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Les réflexions dans l'IA, c'est quelque chose qui est relativement récent. Mais reprenons juste quelques points, notamment, je disais dans l'épisode 1 que j'avais pas codé depuis un an environ, alors que c'était pas vraiment un an, parce que quand même j'écris un petit peu de code, mais j'utilise en tout cas un environnement de développement avec des modèles intégrés depuis genre un an à peu près. Et je vois aujourd'hui une vidéo du youtubeur Benjamin Code, qui est un peu une référence dans le monde du développement francophone sur YouTube, qui a 150 000 abonnés, et qui a sorti une vidéo qui s'appelle « 3 mois que je n'ai pas codé une ligne de code moi-même ». Trois petits points. Alors moi j'avais dit un an, lui c'est 3 mois seulement, peut-être qu'avant il considérait que les modèles n'étaient pas assez puissants par rapport à son niveau, parce qu'il est peut-être meilleur que moi. Après j'ai regardé sa vidéo et il explique qu'il était réticent au début, donc en mode jamais l'IA ne pourra nous remplacer pour coder, et là ça fait littéralement 3 mois qu'il n'a pas codé une ligne lui-même, et il explique notamment certaines features qu'il a implémentées grâce à l'IA. Mais vous voyez que ça va quand même très vite, parce que Benjamin Code a un certain niveau quand même en développement, il a plus de 10 ans d'expérience, et là il considère que c'est plus rapide de laisser l'IA faire le travail pour lui plutôt que de le faire lui-même. Après, il est là pour spécifier les spécifications et bien sûr vérifier que ça marche et valider les changements. Donc, il faut quand même une petite expérience. Et je recevrai sur ce podcast un ami à qui j'ai appris à coder en partant de zéro grâce à l'IA. Et on va voir la différence entre un débutant qui a appris à coder grâce à l'IA récemment et Benjamin Code qui, lui, a 10 ans d'expérience ou moi-même 5 ans d'expérience. On va voir que quand même, il y a pas mal de blocages lorsqu'on est débutant et on ne peut pas encore tout faire ce qu'un développeur expérimenté peut faire. Heureusement d'ailleurs, mais on va voir qu'il y a des limites à tout ça. Cependant, quand on maîtrise déjà un sujet, utiliser l'IA, c'est extrêmement puissant. Mais c'est pareil, en fait, quand on délègue une tâche, même dans une entreprise, quand on délègue une tâche à quelqu'un, si on maîtrise cette tâche, c'est beaucoup plus facile de la déléguer parce qu'on va pouvoir vérifier que le travail est bien fait. Donc, il faut toujours déléguer des tâches que l'on est capable de faire pour pouvoir les auditer, les vérifier lorsqu'elles sont faites. Si on délègue quelque chose qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas, en fait, si la personne, ça se trouve, ça va lui prendre un jour comme 20 jours à faire. Et elle peut travailler un jour dessus et nous dire qu'elle a travaillé 20 jours dessus. Si nous, on n'a aucune idée de cette tâche, en fait, c'est difficile de vérifier. Et même pour vérifier la qualité du travail, c'est mieux d'être un expert que ne pas savoir du tout. Donc, Benjamin Code a fait cette petite vidéo qui dure 13 minutes 54. Je vous invite à la regarder éventuellement si ça vous intéresse. Je l'invite sur ce podcast d'ailleurs, si tu m'écoutes Benjamin, je pense que pour l'instant j'ai pas énormément d'écoutes, donc ça m'étonnerait, bien qu'on a franchi les 100 écoutes en 3 épisodes, donc je suis assez content franchement, j'ai eu de très bons retours encore, merci beaucoup, j'ai pas fait énormément de pubs, j'ai simplement parlé de ce podcast sur Instagram à mes amis, j'espère que des gens qui ne viennent pas d'ici vont voir ces podcasts et grâce aux recherches sur Apple Podcasts, Spotify, etc. avec les recommandations, vont trouver ce podcast. Je cherche des moyens de le diffuser plus grandement. Le truc, c'est que je me filme pas, donc je peux pas créer vraiment des formats shorts, reels et TikTok. Parce que c'est mieux d'avoir une vidéo quand même. Peut-être que quand j'aurai des invités, je pourrai filmer et faire ce genre de format et créer une page sur les réseaux sociaux. Je verrai, mais sinon, ben, je compte un peu sur le référencement. Et puis, si j'ai des invités qui vont venir, qui auront une petite audience et qui pourront également les partager. Donc, le but, c'est quand même d'avoir un projet de long terme, d'avoir ce podcast sur le long terme. Je fais pas mal d'épisodes au début parce que j'ai beaucoup de choses à dire, parce que je travaille sur le domaine depuis plusieurs années. Maintenant, là, j'épuise rapidement mes réflexions profondes lors de ces premiers épisodes parce que je traite des gros sujets. Mais après, je ferai plutôt des épisodes de revues d'actualité, de suivi d'évolution, des nouveaux outils et bien sûr des intervenants. Donc, je ne reprendrai pas à chaque fois les bases. Mais le but de ces premiers épisodes, c'est un peu de traiter les bases de l'IA générative, où on en est aujourd'hui et comment on en est arrivé là. Donc, le raisonnement, honnêtement, franchement, j'ai été bluffé par les features de raisonnement. Je distingue en fait deux cas d'usage. Donc, il y a les requêtes normales qui sont des inférences. C'est-à-dire, on demande à ChatGPT, il nous répond classique. Et ensuite, il y a le raisonnement. Et le raisonnement, c'est marrant parce que là, dans l'IA générative, on essaye de mimer le fonctionnement du cerveau humain. C'est un peu du biomimétisme, dans le sens où les IA génératives, on appelle ça en fait des réseaux de neurones, les modèles. C'est-à-dire que vous avez une entrée, une sortie, et entre ces deux entrées et sorties, vous avez plein de neurones artificiels. Donc, des neurones artificiels, c'est des points qui vont, c'est des 0 et des 1 en fait, tout simplement. C'est une énorme matrice. Et puis, pensez que par exemple, vous reliez les petits jeux où on devait relier le point d'entrée et le point de sortie en prenant un chemin. Et ben là, c'est pareil. Entre l'entrée et la sortie, il y a un chemin qui est pris dans ce réseau de neurones et on aboutit à la réponse. Il y a un peu un effet boîte noire dans le sens où parfois les chercheurs ne savent même pas pourquoi un neurone est parti dans un chemin et pas dans un autre. Parce que ça reste des probabilités. Et les probabilités, c'est jamais déterministe à 100%. C'est ça qui est fascinant. C'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser à 100%. Et c'est comme dans le cerveau humain, on peut avoir des réactions différentes, mais on ne sait pas forcément pourquoi on a ces réactions. Et les IA génératives, c'est vrai qu'on les a entraînées avec tout un tas de données. Donc entraîner, c'est que on leur a passé tout un tas de données dans le modèle. Et c'est un peu en fait comme quand un humain grandit, il va voir tout un tas d'informations, il va écouter tout un tas de choses et il va apprendre. Et bien là, c'est pareil, l'IA va apprendre à partir de tout un tas de données. Et les IA génératives actuelles, bon, peuvent générer des images, elles sont multimodales, mais elles sont principalement textuelles, et donc on va leur faire apprendre avec énormément de textes, c'est-à-dire que on va tout récupérer, toutes les données sur Internet, notamment Wikipédia, etc., parce qu'il y a quand même des sacrées bibliothèques de données grâce à Wikipédia, notamment. Et on va les synthétiser toutes ces données, enlever toutes les mauvaises données pour pas que, en gros, on entraîne à dire des bêtises. Et on va passer ça au modèle, comme si on faisait lire à un enfant tout Wikipédia, un adolescent, au fur et à mesure qu'il grandit. Il va assimiler toutes ces données. Et après ça, bon, il y a de l'apprentissage supervisé, etc. Mais je pourrais revenir dessus. Pourquoi je disais ça? Pourquoi je disais ça? Oui, parce que du coup, ça, c'est des inférences ensuite classiques. C'est-à-dire que on va passer dedans, on va arriver à la sortie. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé. D'ailleurs, le fait que ce soit une boîte noire, Dario Amodei, le CEO de Anthropique, disait que c'était un grand danger. C'est un peu lui qui a alerté sur le fait que, attention, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans ces neurones. Parce que c'est probabiliste et non déterministe. Et du coup, il disait que ça serait bien de mettre en place des façons de comprendre pourquoi l'IA a pris tel ou tel chemin. Puisque si demain l'IA a une conscience, bien on pourra comprendre, et on pourra comprendre même le cerveau humain grâce à l'IA. On peut faire du reverse engineering en partant d'une IA pour mieux comprendre le cerveau humain. C'est ça qui est fascinant. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de reconstruire un cerveau humain petit à petit, parce que Yann LeCun explique très bien que, en fait, nous, depuis qu'on est petit, on a consommé énormément plus de données qu'un modèle style ChatGPT. Pourquoi ? Parce que nous, on a consommé toutes les données audio et vidéo, en plus des textes qu'on a lus. Et les données vidéo, en fait, c'est des données très lourdes en termes de taille. On ne peut pas, pour l'instant, entraîner un modèle avec autant de données vidéo. C'est beaucoup trop. Mais notre cerveau, en fait, il est extrêmement bien fait. Il est extrêmement mieux optimisé que les IA génératives actuelles. C'est assez contre-intuitif, parce qu'on peut se dire qu'on retient pas forcément tout alors que ChatGPT connaît tout. Mais le cerveau actuel a amassé énormément de données et fonctionne beaucoup mieux que les réseaux de neurones artificiels. L'idée, j'imagine, des chercheurs en IA, c'est de se rapprocher des performances d'un cerveau humain en termes de traitement de données. Et à partir de là, on pourra lui passer toutes les données et ça va être méga puissant. Mais du coup, donc ça, c'est la première étape, les inférences. Et comme on ne sait pas trop ce que ça donne, en fait, les transformers, ce qui est à la base des LLM, va prédire le mot suivant dans une phrase. Donc, si vous écriviez « je », il va prédire « je m'appelle », par exemple. Ensuite, il va prédire le prénom le plus probable, selon la langue. Donc, je ne sais pas, mais par exemple « Jean ». Et ensuite, il va prédire... il y a 50% de chances qu'il dise, par exemple, « Jean », 50% de chances qu'il dise autre chose. C'est juste pour imager. Donc, ça peut partir dans tous les sens, en fait. Si vous répétez la même requête, exactement la même question à un LLM, il ne va jamais vous sortir la même réponse. Tout ça parce qu'à chaque mot, il y a une certaine probabilité et ce n'est pas sûr à 100% qu'il parte sur une réponse en particulier. Si vous accumulez toutes ces probabilités, la probabilité qu'il donne exactement la même réponse à une question donnée, c'est genre 0%, littéralement. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien prompter, parce que il se base pas seulement sur le mot d'avant pour prédire le mot d'après, il se base sur toute la phrase, tout le texte avant qu'on met en contexte, c'est-à-dire le prompt plus le système prompt qui est configuré derrière, que nous on voit pas dans ChatGPT, mais chaque IA est déjà préconfigurée à être polie par exemple, etc., etc. Mais l'idée, c'est de plus on peaufine le prompt, plus on l'oriente pour sortir un résultat précis avec une probabilité grande. Et en fait, les chaînes de pensée, chain of thoughts, c'est exactement ce qui est sorti il y a quelques mois. Il y a des chercheurs qui se sont rendus compte qu'en demandant à l'IA explicitement d'expliquer son raisonnement avant de fournir une réponse, elle donnait des réponses plus précises. Et là, ils se sont dit, mais c'est bizarre ça, pourquoi elle donne des réponses plus précises parce qu'on lui demande d'expliquer son raisonnement, et que quand on lui demande pas d'expliquer son raisonnement, les réponses sont moins bonnes. C'est pas la même réponse. Parce que quand elle explique son raisonnement, du coup, elle va reprendre étape par étape, et ça va orienter le résultat final vers une sortie plus probable qui va reprendre toutes les étapes et donc se rapprocher beaucoup plus d'une réponse juste et vraie. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, à me suivre là-dessus, peut-être que j'ai du mal à expliquer ce point. Mais c'est vraiment fascinant. Les chercheurs eux-mêmes, par défaut, ce n'est pas vraiment leur intuition qui leur ont amené à penser ça, mais c'est vraiment en testant. Ils se sont dit, tiens, on a réussi à l'orienter, puisque à chaque fois comme on lui demandait d'expliquer sa réponse étape par étape, la prédiction finale était plus facile pour lui puisqu'on avait décortiqué toutes les étapes. Plus facile et plus réaliste. Et donc, ils se sont dit, mais ce qu'on va faire, c'est que désormais, on va créer des modèles de raisonnement qui vont décortiquer des problèmes en plusieurs points. Donc, on va les configurer soit via le prompting, soit en faisant plusieurs inférences successives, mais généralement, juste dans le prompt, par exemple, l'orienté, ça suffit. On lui dit, explique tes données, ton raisonnement étape par étape. Et ensuite, c'est ce qu'il va faire. Les agents IA, c'est un peu différent, mais ça reprend le même principe. Il peut itérer sur lui-même. Je crois qu'il y avait un outil au début qui s'appelait AutoGPT. Mais en gros, par exemple, on prend la sortie et on la remet dans un nouveau call API, et puis etc., jusqu'à aboutir à une réponse satisfaisante. Et on lui dit, en fait, via une boucle infinie, tant que tu n'as pas une réponse 100% satisfaisante, donc c'est à lui aussi de se faire ce jugement que la réponse à la question initiale est complète. Tant que la réponse n'est pas complète, eh bien, itère et essaye de décortiquer le problème pour trouver cette solution. Donc, il peut faire ça en plusieurs étapes. Il y a plein de façons d'implémenter un raisonnement, mais ce que je veux vraiment qu'on retienne, c'est que juste le fait de lui demander dans le prompt d'expliquer son raisonnement peut aboutir à un résultat meilleur. Ça fait quand même réfléchir sur l'IA. En fait, est-ce que l'IA peut avoir une conscience, etc. On a demandé à beaucoup de chercheurs déjà, et il y en a un qui pense que oui, et il y en a un qui est non négligeable. Il s'appelle Ilya. Alors, son nom de famille, Sutskever, mais honnêtement, il est américain, je crois. En tout cas, il habite aux États-Unis parce qu'il travaillait pour OpenAI. Il est russe, pas du tout américain. C'est pour ça qu'il a un nom un peu compliqué. Il est russe et il était chercheur en chef chez OpenAI. Il a démissionné et il est en train de créer sa société qui s'appelle Safe Super Intelligence Incorporation, SSI, en opposition à ce qu'on appelle AGI. C'est en gros la super intelligence. C'est quoi les initiales AGI ? Intelligence artificielle générale, pardon. Et donc lui, il pense que les IA génératives peuvent avoir une conscience. Et il explique tout simplement le raisonnement. En gros, puisque en fait, les IA génératives sont basées sur la prédiction du mot suivant, et il prouve que c'est ça l'intelligence, en fait. C'est la prédiction du mot suivant, c'est littéralement la définition de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que dans une intrigue policière, par exemple, imaginez un scénario à la Agatha Christie, eh bien tout le livre va donner des indices sur qui est le criminel final. Et donc tout ce scénario se met en place. Et à la fin, on va dire le criminel est. Et là, si l'IA prédit le bon criminel en se basant sur tous les indices, eh bien on peut considérer qu'elle est intelligente puisque en fait, la réponse la plus probable est clairement la vérité. C'est un fait. C'est le fait que cette personne a tué telle personne parce que c'était ses empreintes, etc. Ça peut pas, par élimination, être telle personne qui avait un bon alibi. Et donc, il explique simplement que ce raisonnement est une preuve d'intelligence. Et que, pour la conscience, c'est un peu plus compliqué, mais il explique que puisqu'un cerveau est fait à base de réseaux de neurones et que nous avons une conscience, eh bien, il pense tout simplement que puisque les réseaux de neurones artificiels ont la même architecture, pourquoi n'aurait-elle pas de conscience non plus un jour ou l'autre? Honnêtement, j'ai pas creusé toutes ces questions philosophiques plus que ça, mais gardez en tête que, En fait, il se passe quelque chose de particulier avec les large language models, c'est que ils deviennent vraiment intelligents dans le sens où ça se voit, en fait. On a l'impression que les derniers modèles de ChatGPT, etc., ils ont quand même une certaine intelligence. Ils s'adaptent. L'intelligence, on dit souvent que c'est l'adaptation à son environnement, et les modèles de ChatGPT peuvent s'adapter à l'interlocuteur, etc. Donc vraiment, ils peuvent faire preuve de discernement, etc. Donc, c'est pas pour vous faire peur, mais les large language models, eh bien, en fait, c'est peut-être, on n'est qu'au début et ils peuvent aller encore beaucoup plus loin. Alors après, j'ai vu que Yann LeCun disait que ça se fera pas forcément avec les technologies et les architectures actuelles. Il faudra potentiellement inventer des architectures en réseau de neurones, etc., autres que les transformers, qui soient plus efficaces encore pour arriver à un niveau beaucoup plus haut. Mais voilà. Maintenant, si on essaye d'appliquer le raisonnement, en fait, des IA, si on considère qu'elles donnent des meilleurs résultats lorsqu'on demande explicitement, eh bien, de fournir les étapes de réflexion, on pourrait transposer ça à nous-mêmes en se disant, lorsqu'on se pose une question, au lieu de donner directement une réponse qui nous passe par la tête, appliquons le même framework où on va essayer d'expliciter dans notre tête ou sur un papier nos étapes de raisonnement. Et peut-être que ça nous amènera également à donner des meilleurs résultats, qui sait. Donc, petite parenthèse refermée. C'était tout ce que je voulais vous dire par rapport au raisonnement pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, j'ai mis mon mail dans le podcast, notamment si vous êtes une entreprise ou si vous avez une entreprise et que vous voulez utiliser l'IA générative pour augmenter votre productivité, automatiser vos process, n'hésitez pas à me contacter. On peut voir ce qu'on peut faire ensemble. Je crée beaucoup d'outils d'IA, notamment, j'ai mis dans l'épisode précédent mon code pour le transcript et le chapitrage automatique. Je crée d'autres applications qui sont pas forcément tout le temps publiques sur GitHub, mais n'hésitez pas à me contacter. Merci encore pour tous vos retours. Si vous avez des idées de thèmes de podcast, vous pouvez également me les transférer. Et je vais continuer avec ma petite newsletter IA configurée automatiquement dans ChatGPT via les tâches. D'ailleurs, je vais peut-être, si le podcast marche bien, lancer ma propre newsletter dans laquelle je sélectionnerai certaines actualités. Mais voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie et on se dit à très bientôt pour le premier invité dans ce podcast. Donc, ne ratez pas ça, abonnez-vous et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao.